D'Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici, Europe numéro 1.
Here is Europa numéro 1.
This is Europe number 1.
Reculez ! Vous êtes toujours en charge ! Eh bien, les policiers ont reculé, même les CRS se font, ont formé un espèce de toit avec leurs boucliers.
Roulez avec Europe 1.
Oui ! 48-85, Marie-Josée Perrette est championne olympique.
Et voilà, c'est SNC qui recommence.
Voici Jacques-Yves Cousteau, que je suis particulièrement heureux d'accueillir en public, en direct aujourd'hui, avec tous les auditeurs et les amis d'Europe 1.
On va rire, on va chanter.
Bonjour à tous. Le Cisco avec Jean-Paul Roulant, Jacques Roulant, Harold Kay.
Marc Tranchot.
Heureux de vous retrouver, vous, les enfants d'Europe 1, merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Vous avez été nombreux à me faire parvenir, dès le début de cette série d'émissions, des courriers tous plus sympas les uns que les autres. Et beaucoup m'ont demandé de réécouter, de seulement réécouter certaines voix. Des voix qui ont marqué l'antenne, des voix d'animateurs, d'animatrices, de journalistes, de meneurs et meneuses de jeux, métier qui, au passage, n'existait pas avant Europe 1, puisque cette station l'a inventé. Et y réfléchir, quoi de plus légitime que cette demande de la part d'auditrices et d'auditeurs de la radio? Cette émission est donc une réponse à votre courrier. Réponse qui ne pourrait être qu'incomplète compte tenu de toutes les vedettes, de tous les talents qui, quelque part, portent un bout de vie de la station en eux, pas très loin du cœur généralement. C'est le cas de celui qui va accompagner cette émission, puisque mon invité est ce matin, monsieur Christian Morin. Salut Christian.
Bonjour Marc.
Tout va bien?
Ça va, heureux.
Europe 1, affaire de cœur, oui.
Bon générique, hein, déjà.
Ah, et on a tous en nous quelque chose d'Europe 1, non?
Mais ah, exactement, puis de rentrer à Europe 1, en tous les cas, quand ça m'est arrivé, quel honneur. Quel honneur.
The Voice, on a dû te le dire de temps en temps, non? La Voix.
Mais c'est, j'avais été surnommé comme ça, La Voix.
Comme Frank Sinatra, par... du côté chanteur, quoi.
Oui, c'est gentil, mais c'est Anne Sinclair qui m'avait surnommé La Voix dans les couloirs quand on se croisait entre la rédac et les studios. Et puis les deux patrons que j'ai rencontrés, c'était l'époque de Maurice Siegel et Jean Gorini. Mmh. Si Jean Gorini avait dit, lors d'une maquette, je me souviens, j'étais en train de faire un essai de voix, puisqu'il fallait bien commencer par quelque chose. Et il était passé, j'avais vu l'homme à la pipe, et on m'avait dit, il a pas trouvé ta voix, il a trouvé ta voix un peu éraillée. Alors j'ai été un peu contrarié, j'ai dit oui, mais enfin qui est-ce? Et on m'avait dit, c'est le patron. Alors là, je suis reparti chez moi, très inquiet, puis il y a eu un deuxième essai de voix et la belle aventure.
Bon, comme je vous le disais, n'ayant que l'embarras du choix, parmi les grandes voix de la maison, on va faire un peu comme si on tirait au sort. On va varier les plaisirs, les périodes, on va se faire notre météo à nous, en quelque sorte.
Et il fera jusqu'à 26 à 27 degrés à Paris cet après-midi, 29 à Nantes, 32 à Bordeaux et à Périgueux, à Toulouse et 33 à Pau. Et demain, ça va continuer, il va faire encore plus chaud. Dans l'Est, là où il ne fait pas encore très chaud, aujourd'hui, la chaleur va augmenter considérablement, et dans le centre et dans le sud-est. Mais il y aura des orages dans l'ouest et dans le sud-ouest, et il va pleuvoir cette nuit sur les régions côtières de l'Atlantique. Et demain, il y aura quelques orages sur l'Anjou, le Poitou, les Charentes, la Sainte-Onge, enfin, la Gascogne, le Béarn, toutes ces régions, il y aura quelques orages. Et mercredi, le temps deviendra lourd et orageux sur la plus grande partie de la France, surtout dans...
Alors, dans ça, pour une voix particulière, c'est une voix particulière.
Hein? C'est un
Albert Simon,
qui,
bien sûr.
Albert Simon, oui, qui avait été engagé par Maurice Siegel. Uh-huh. Et Maurice Siegel, enfin beaucoup de gens le savent ici dans la station, pour les anciens, Albert Simon était un homme qui avait travaillé avec les troupes américaines au Moyen-Orient, je crois, et où il était important pour certains débarquements en Méditerranée de ne pas se tromper sur le plan météorologique. Et la voix, ça a été extraordinaire, parce qu'il y avait une connotation européen, justement, par ce timbrage. C'est ce que j'ai toujours aimé, moi, ce marquage un petit peu des voix Europe.
Et tu sais que j'ai rencontré, moi, des auditeurs qui ont été stupéfaits d'apprendre qu'Albert Simon, ça n'était pas un nom inventé et que ça n'était pas une voix artificielle.
Ah oui?
Oui.
Mais c'est vrai, oui, on pouvait l'imaginer. Mais Albert Simon, il y a une petite anecdote dont je me souviens tout à coup, ça c'est marrant, ça revient comme ça, comme des nénuphars remontant sur un étang.
Très belle image.
Et oui, mais quelle belle métaphore. Et Albert Simon avait fait passer une annonce pour se marier.
Et Maurice Siegel lui avait dit avec sa voix comme ça, il lui avait dit « Écoutez Albert, est-ce que vous croyez que c'est sérieux de faire passer une annonce où vous ne mettez pas votre nom au complet, vous ne marquez même pas la station de radio où vous travaillez ?» Et il avait répondu avec cette voix caractéristique, il avait dit « Mais vous savez Maurice, je ne veux pas qu'une femme m'épouse pour mon nom, ma notoriété et pour mon argent, je veux qu'elle m'épouse pour amour. »
Alors, à moins que je sois mal informé, mais Albert, il est toujours pas marié, il a toujours bon pied bon oeil. Je lui ai téléphoné l'autre jour, je lui ai demandé de revenir à Europe 1 pour une petite interview, histoire de me raconter précisément comment il est arrivé à Europe, et voilà.
J'étais un spécialiste de la météo, puisque j'ai travaillé pour l'aviation américaine pendant très longtemps. C'était une aviation militaire, quand ça cessait d'avoir des activités, j'ai proposé mes services à Europe numéro 1, et tout de suite, 30 secondes après, Monsieur Maurice Siegel a accepté. Il ne connaissait même pas ma voix, il ne connaissait pas du tout ma voix, c'est parce que je lui ai proposé mes services et il a vu que j'étais qualifié, voilà, c'est tout.
On faisait la météo comment à cette époque-là? Il y avait combien de bulletins? Racontez-nous un peu ce qu'était votre journée, combien de bulletins on vous demandait et comment vous les faisiez, à partir de quelles informations?
Ah, il y avait moins de bulletins que maintenant, c'était beaucoup plus restreint, je ne me rappelle plus. Mais moi, je n'avais pas d'informations. Moi, c'était moi-même qui faisais mes propres bulletins. Moi, j'ai toujours dessiné moi-même mes propres cartes d'isobare et fait moi-même mes propres visions.
À partir de quel moment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à la météo?
Ouh là là, j'ai commencé... J'étais encore étudiant au lycée, encore, quand je... J'avais peut-être 16 ou 17 ans.
Mais qu'est-ce qui a été le déclic? Vous regardiez le ciel, ça vous intéressait?
Ah, mais je ne faisais que ça, j'ai toujours regardé le ciel. Je préfère regarder le ciel que de regarder ailleurs.
Confirmation, effectivement, il a bien commencé dans l'aéronautique. Un point pour Christian Morin.
Ah, c'est formidable, moi ça me fait plaisir de réentendre Albert. En tous les cas, salue-le pour moi.
Ah, il avait parfois du mérite, hein, parce que ce que vous allez entendre n'est jamais passé sur l'antenne, jamais. Il faut vous dire que son bulletin était parfois enregistré avec le présentateur du journal, pour des raisons de commodité, et avec Jean-Claude Dacier, qui le chambrait volontiers, mais toujours avec beaucoup de gentillesse, faussement bourru, ça donnait des échanges inattendus.
Albert?
Je suis prêt pour le duplex.
Ah bon, bah, je vous entendais pas. Ça va-t-il?
Oui, ça va, je vous remercie.
Bon. Ne me demandez pas de mes nouvelles, hein, comme ça je vous en donnerai.
Mais je vous ai vu tout à l'heure.
Ah, c'est vrai. Bon, alors mon cher Albert...
Vous modulez, il module.
Albert, nom de Dieu. Albert.
Je module, tu modules, il module. Nous modulons, vous modulez, il module.
Bon, alors Albert, c'est fini, cette rigolade. Oui, j'aime bien votre humour, mais enfin, ça a des limites. Albert.
Je module, tu modules, il module.
Module. Alors mon cher Albert, est-ce que en cherchant bien, nous allons pouvoir trouver quelques brins de muguet fleuris ce week-end?
Oui, on pourra mugueter sa belle, mais il faudra quand même bien se couvrir.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, Simon? Qu'est-ce que ça veut dire mugueter sa belle?
Hein?
Ben ça veut dire offrir du muguet à sa belle.
Ah bon? Mais il faudra l'acheter.
Ben évidemment.
Il y en a dans les bois ou non?
Oh, il y en a sûrement, oui.
À l'évidence, il ne peut pas y en avoir avec le temps de merde que vous nous annoncez depuis 3 semaines.
Pourquoi? Il a fait très beau pendant. Il y a eu beaucoup plus de soleil que d'habitude.
Je vais vous filer une plainte au comité d'entreprise. Vous allez voir.
Il n'était pas commode, le père d'acier avec Simon. Mais c'était toujours très, très, très gentil. On en a plein des enregistrements comme ça. On en a aussi avec André Arnault. Puis il y a aussi d'autres cas où, quand Albert était en vacances, il pouvait arriver à André Arnault, qui était quand même l'immense présentateur du journal de 13h,
ah,
puis
oui,
de la tranche 12h30-13h. Il lui arrivait de sentir un petit peu seul quand Albert n'était pas là. Et c'était l'occasion de lui faire des reproches. Et peut-être pour le faire revenir un petit peu plus vite de congé.
Une bonne nouvelle pour terminer. Albert Simon nous promet du beau temps pour demain. Il nous promet certes quelques nuages, surtout en fin de journée, mais cela ne devrait pas gâcher une journée d'août qui ressemblera enfin à ce que doit être une journée d'août. Je le crois, Albert Simon, car il a toujours été extrêmement prudent dans ses prévisions. Certes, il nous avait promis une bonne première semaine de mois d'août. Sa grenouille a d'ailleurs un orgelé, car on ne se met pas la patte dans l'œil à ce point impunément. Elle s'est gourée, ça arrive à tout le monde, ça, on ne va pas manger la grenouille d'Albert Simon pour faire rigoler les Anglais qui n'ont jamais compris pourquoi en France on mangeait les grenouilles. Mais très vite, dans la première semaine de ce mois de vacances, Albert Simon a admis qu'il y avait eu erreur. Et il ne s'est pas obstiné, il s'est pas obstiné à promettre du beau temps alors qu'il savait que ce ne serait pas le cas. Alors je lui fais confiance. Il nous promet sûr et certain une bonne journée pour demain. Je veux croire que ce sera le cas. Sinon, je pars pour Quiberon où Albert Simon est en vacances. Je pars pour Quiberon et je vous le jure. S'il s'est trompé, je lui fais boire une tasse dans l'océan Atlantique. À demain.
Albert Simon, c'est vraiment une institution est complètement intégrée dans la rédaction.
Exactement,
avec,
oui, oui.
Avec ces grands messieurs qu'on vient d'entendre.
Mais c'était des repères importants, je crois, pour les auditeurs. J'ai été auditeur, moi aussi, d'Europe 1. D'où cet événement dans ma vie, quand on m'a dit, vous allez commencer l'antenne de minuit à 3h du matin.
Quoi avant, sans indiscrétion?
Non, j'ai fait 7 ans de Beaux-Arts, parce que j'ai quand même un vrai métier. Je suis saltimbanque aujourd'hui, toujours, le théâtre, la comédie, ouais. La musique. Mais je suis diplômé en art graphique et en publicité. Je suis graphiste, illustrateur et dessinateur humoriste. Et donc j'ai travaillé en agence et je cherchais quelque chose qui pouvait réunir la musique, des expositions de dessin dont je m'étais occupé, notamment une exposition de Chaval à Bordeaux. J'avais travaillé pour la radio, c'était pas encore France 3, c'était l'ORTF de Bordeaux-Aquitaine, en tant que musicien et puis graphiste pour des génériques de films pour toujours la station régionale. Et en arrivant à Paris, je voulais retrouver quelque chose. En fait, j'étais tenté pour devenir un petit peu ce qu'était Jacques Chancel avec le Grand Échiquier. Uh-huh. Je trouvais ça extraordinaire. J'allais souvent sur les plateaux de Jacques, puisqu'un de mes amis était son collaborateur direct. Et je me disais que ça réunissait tout ce que j'aimais, la chanson, la musique, la peinture, les arts en général. C'est comme ça que j'ai connu Raymond Devos, d'ailleurs. Et je suis arrivé à Europe 1 un jour pour demander s'il y avait...
Du boulot.
Oui, mais attendez, c'est important. Attends, Marc, j'ai posé la question, tu le disais tout à l'heure, meneur de jeu a été inventé comme terme par Europe 1. J'ai demandé s'il y avait des stages pour devenir speaker. On m'a rionné en me disant, on dit plus speaker, on dit animateur, meneur de jeu. J'ai fait 2 ou 3 essais et j'ai été engagé par un certain Pierre Delanoë.
On se retrouve dans quelques instants avec tous les enfants d'Europe 1 et Christian Morin. Retour sur le plateau des enfants d'Europe 1 avec Christian Morin. On parle et on écoute les voix qui ont fait Europe 1, qui continuent de faire Europe 1. Une autre institution de la station, Madame Soleil, on la retrouve avec un certain Christian Morin.
Avec Madame Soleil, avant de parler des maisons et de l'influence du soleil dans les maisons, nous avons un cas. Je peux vous faire un tendre baiser, Madame
Soleil ? Oh, avec plaisir.
Bien que vous ayez un léger début de grippe, m'a-t-on dit ?
Oui, oui, oui.
Mais quand on aime, on ne compte pas les microbes.
Voilà. Voilà.
La semaine dernière, Madame Soleil nous parlait des maisons, de ces 12 maisons, de l'astrologie. On a eu tous les détails. Alors maintenant, lorsque les fenêtres de ces maisons sont ouvertes, sur n'importe quel côté de la maison, eh bien, le soleil peut pénétrer dans cette maison. Et il y a une influence assez importante, Madame Soleil, du soleil dans les maisons.
Oui, parce qu'en soi, le soleil, il représente une face de la personnalité qui sera complétée naturellement par l'ascendant et les autres planètes du thème. Mm-hmm. Mais il est le facteur vital, la vie. L'élément mâle, la force morale ou physique rayonnante. Et il symbolise naturellement le père, le chef, l'autorité.
Alors, selon les maisons, le soleil y pénètre différemment. Par exemple, la maison 1, qu'est-ce que c'est ?
La maison 1, c'est l'ego, c'est la personne. Par exemple, s'il est dans un signe ou dans un autre, ou dans une maison ou dans une autre, il apporte des valeurs différentes. Il accorde la franchise en maison 1, la loyauté, une destinée heureuse, des facultés supérieures, selon ses aspects, avec les autres planètes, naturellement, du thème initial.
Moi, je vous propose que nous reportions les cinq dernières maisons.
Voilà, parce qu'il faudra même bien...
Qu'on ait le temps de les expliquer, que vous ayez le temps de les expliquer. Voilà, alors demain, donc, les 5 autres maisons, et nous commencerons demain avec la maison 8, la mort et le soleil. Madame Soleil, bonne fin d'après-midi.
Merci, Christian.
Soignez bien cette petite grippette, et puis à demain, entre 15h30 et 16h.
Bon, ben moi, vous savez, avec le soleil, je risque pas grand-chose.
Hein, bien sûr.
Ça va vite passer.
Vous en connaissez un rayon.
Elle est très bien, c'est classique.
Oui, oui. Alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai commencé la nuit avec Madame Soleil, puisque Maurice Siegel avait eu l'idée de la faire intervenir avec des auditeurs qui demandaient des conseils sur l'horoscope, leur avenir, etc., etc.
Il y a rendez-vous avec la lune.
Là encore, c'était son vrai nom. C'est pas un nom inventé. Germaine Soleil, il fallait le faire quand même.
Elle a un côté Castafiore. Hein.
Ah oui, mais c'était quelqu'un de comment dirais-je, c'est quelqu'un qui avait cette qualité. Elle avait fait des études de médecine et elle avait ce qu'on appelle, et peut-être ce qui manque un tout petit peu aujourd'hui, elle avait du bon sens, ce côté un petit peu terrien. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui a été beaucoup apprécié, qui était assez brillante.
Tu lui as demandé de faire ton thème astral ?
Oui, et elle a dit des choses qui, curieusement, se sont un petit peu dessinées quelques années après.
C'est de quel signe ?
Poisson, ascendant Lion.
Et t'as souvenir qu'elle t'a dit quoi ?
Elle m'a dit notamment qu'il fallait aller dans le sens populaire des gens. Elle me disait toujours, prenez exemple. Alors, des exemples de gens qu'elle avait croisés et côtoyés et rencontrés. Et elle me disait, allez dans le sens de ce que faisait Maurice Chevalier. Elle me disait toujours, l'élégance, Christian, pensez à ça. Mais le côté populaire, sans aller taper sur le ventre des gens, c'est extraordinaire. Et peut-être que c'est ce qui s'est un petit peu dessiné avec la télévision par la suite.
Mmh. Et elle a vu que tu ferais du cinéma, puis du théâtre. C'est
non,
ton
on n'a pas évoqué. Le théâtre, j'en avais parlé, parce que ça, c'est une envie de longue date, bien sûr. J'en avais parlé, mais je n'osais pas aller affronter cette rencontre avec le public. Et puis après, ça s'est bien dessiné. Enfin, ça commence et ça continue aujourd'hui.
Oui, parce que ça fait quand même quelques années que tu brûles les planches.
Mais ça fait une dizaine d'années maintenant, mais je travaille avec un homme qui s'appelle Jean-Laurent Cochet. Qui est le patron du théâtre et l'homme de la culture théâtrale. Et puis, on est en tournée cet été avec Marivaux, les fausses confidences.
Alors, dans l'information, autre grande vocation, autre raison d'être devenue image de marque d'Europe 1, tous les plus grands sont passés. On en entendra ou on en a entendu certains dans d'autres émissions. L'un des plus grands, tu en as parlé tout à l'heure, qui quittera la maison sur de fortes pressions du pouvoir giscardien en place, c'est Maurice Siegel. Sa voix est restée dans les souvenirs. Celui, par exemple, quand il propose la médiation d'Europe 1 dans le conflit qui oppose, et on est en 1958, le danseur chorégraphe d'origine russe, Serge Lifar, au mécène américain d'origine chilienne, le marquis de Cuevas, fondateur du ballet international portant son nom. Et il était alors prévu que leur différend trouve son issue lors d'un combat singulier sur le pré. Et oui, à l'époque, ça se pratiquait encore.
Je sais combien le tout Paris et nous-mêmes journalistes, nous sommes quelquefois friands de telles informations comme celles que vous nous fournissez aujourd'hui. Mais je voudrais vous poser quand même, vous faire une demande. Est-ce que vraiment, pour l'un et pour l'autre, la réconciliation est impossible ? Est-ce qu'on ne peut pas vous demander, devant nos auditeurs d'Europe Midi rassemblés ici dans notre studio, de vous rencontrer et de vous expliquer, enfin disons, autrement que sur un prêt ? Est-ce qu'il est impossible d'obtenir ça de vous ?
Ah, il me semble aujourd'hui c'est difficile, on est allé un peu loin avec nos déclarations. Alors comme les marquis est courageux, et moi... Vous savez, ça ne me manque pas le courage. Alors je crois que nous continuons de nous exercer.
C'est-à-dire, c'est un refus de la mission Bons Offices que je vous prépare.
Non, Maurice Siegel, notre rédacteur en chef, vous propose sa mission de Bons Offices. Est-ce que vraiment pour vous, c'est impossible de venir serrer la main du marquis de Cuevas, ici, de profiter de cette rencontre inopinée, puisque vous ne vous y attendiez pas, bien sûr, et d'aller dans le studio tout à l'heure, dans le studio où se fait ce journal, et de venir serrer la main du marquis de Cuevas? Vous êtes vraiment irréductible.
Vous êtes le plus jeune, Serge Lifar.
Mais je sais.
C'est à vous qu'il a
marqué. Mais vous savez quand même, aujourd'hui, il y a l'honneur engagé de nos témoins. Alors, vous comprenez, je ne peux rien dire, n'est-ce pas,
Vous l'avez dit tout à l'heure, je vous coupe, là, Serge Lifar. Vous avez dit tout à l'heure, le marquis ne voit pas très bien, il n'entend pas très bien. Peut-être va-t-il être quand même très désavantagé dans ce duel.
Mais dans ces conditions, pourquoi les marquis ont choisi l'épée?
Et ici, c'est Alain Choiset, je suis avec le marquis de Cuevas, qui, lui, va vous dire pourquoi il a choisi l'épée.
Moi, j'ai choisi n'importe quoi. Parce que tout m'est égal, je n'ai pas l'habitude des armes, alors qu'est-ce que ça fait?
Vous voyez, je crois quand même, Serge Lifar, si le marquis acceptait cette réconciliation et cette poignée de main, je crois quand même que vous ne pouvez pas la lui refuser.
Non, je n'aime pas les choses spectaculaires comme ça.
Je sais, mais vous savez que j'ai pris ma leçon aujourd'hui.
Eh bien, ce sera une leçon pour rien.
Maurice Siegel ?
Oui.
Ici, c'est Alain Choiset. Eh bien, je vous signale que le marquis de Cuevas veut quitter notre bureau car il m'a dit qu'il ne voulait pas de réconciliation.
Ça, c'est un document, hein, Christian ?
Ah, tout à fait. D'abord d'entendre la voix de Fernand Choiset à la fin et celle de Maurice Siegel.
Les deux autres sont pas mal non plus, d'ailleurs.
Ah, les deux autres, mais moi je me souviens très bien de photos, puisque ce duel avait eu... Il y a eu une esquisse de blessure, je dirais ça comme ça, et il y avait des photos dans Paris Match à l'époque.
Bah, vu que les deux sont décédés plusieurs années après...
Mais pour Maurice Siegel, j'ai une petite anecdote, parce que je crois qu'il y avait quelque chose d'assez épatant à Europe à l'époque, quand on rentrait, puisque je suis de la même génération que Julie, nous sommes de la même promotion, rentrée en 72 à Europe 1. Et bien évidemment, l'aventure a commencé dans la nuit du 9 au 10 janvier 72, quand Pierre Delanoë m'a dit « Patrick Topalov va commencer à faire de la chanson avec Claude François, il faudrait que vous le remplaciez ». Alors j'ai prévenu toute la famille. Et puis il y a des amis après qui m'ont dit, tu sais, c'était bien, mais c'était les débuts. Mais entre minuit et 3 heures du matin, les gens s'endormaient un peu. Et j'ai souvent occupé la tranche du dimanche soir. Et au tout début, Maurice Siegel rentrait très souvent de week-end avec son épouse. Et j'avais la gratification d'être entendu par le patron entre 10h30 et 1h du matin.
Une gratification ou danger, hein,
c'est... Non, mais c'était épatant, parce que on apprenait en même temps une espèce d'autocensure, à ne pas dire n'importe quoi. Et je vous expliquais comment Siegel m'a expliqué la chose. Mais tous les lundis, j'étais convoqué après la conférence de rédaction pour parler de ce qu'il avait entendu et ce qu'il pensait que je devais faire ou non. Et un jour, Maurice Siegel m'a dit, Christian, hier soir, je vous ai entendu présenter un disque de Duke Ellington avec beaucoup plus d'enthousiasme qu'un disque de Sheila. Votre goût, on s'en fout. Les programmateurs choisissent des disques pour les auditeurs et n'oubliez jamais, il ne faut pas prendre le micro pour un dégueuloir.
La culture de l'auditeur.
Toujours resté. Exactement.
Toujours présente.
Et il y a toujours eu ce phénomène et c'est vrai. Alors, je passe pour un ancien combattant maintenant en disant cela, mais quand les radios libres sont arrivées, et quand il y avait un mec qui était viré dans une radio libre, il faisait la une de Libé dès le lendemain. À Europe, c'était pas le cas. Au contraire, un dérapage sur une pub en direct, on a été mis à pied 8 jours, et c'était la honte pour nous, parce que c'était comme un remplacement au théâtre ou au football. On ne pouvait pas opérer. C'était le drame. C'était une engueulade pire qu'un prof.
Alors, autre monument de l'antenne et de la rigueur, Jacques Paoli, le père de Stéphane, qui lui prendra la suite dans les années 80. Jacques Paoli, donc, extrait d'un journal, nous sommes en mai 68, dialogue avec deux reporters sur le terrain, Alain Cancès et Gilles Schneider.
Jacques Paoli ?
Oui ?
Les chers jeunes fous, on a ici en ce moment, vous l'entendez peut-être, alors que de tous côtés, il y a des nouveaux incendies. À environ 30 mètres de moi, on a beaucoup de mal à parler car la fumée des incendies plus des grenades, on est obligé de prendre son mouchoir pour pouvoir parler.
Gilles Schneider, Gilles Schneider, pas d'héroïsme intempestif, mais installez-vous à un endroit où vous pouvez nous rendre compte correctement de la situation sans prendre trop de risques. La nuit n'est pas terminée, nous avons besoin de vous.
Attendez, je vais me replier un petit peu car effectivement ici ça devient...
D'accord, repliez-vous. Alain Cancès.
Et à l'instant, j'ai vu des riverains de la rue Gay-Lussac qui manifestaient leur mécontentement. Quelques CRS ont tiré des fusées et des grenades lacrymogènes à l'intérieur des appartements.
Non, je pense que les CRS n'ont pas tiré à l'intérieur des appartements, qu'ils ont tiré en direction des barricades et qu'il y a des grenades qui sont tombées dans les appartements.
Non, je peux dire, il n'y a absolument aucun doute. Des gens étaient à la fenêtre et les ont insultés. Et les CRS ont répondu en envoyant en direction des fenêtres pour avoir le sixième étage, pour le viser, des grenades lacrymogène.
Alain Cancès, ce que vous nous disiez tout à l'heure semble se confirmer. Il semble bien pour des raisons qui nous échappent, des représentants des forces aient lancé des grenades en direction des fenêtres, soit parce qu'on les huait, soit pour toute autre raison, parce qu'on leur jetait des projectiles sur la tête. Et dans tous les cas, des gens du quartier, et d'après les renseignements que nous avons pu obtenir par nos reporters qui sont avec leur Nagra, avec leur appareil enregistreur, mais qui n'ont pas de voiture radio-téléphone, laissent supposer que ce que vous nous indiquez tout à l'heure est parfaitement exact.
Voilà, Jacques Paoli, en mai 68, avec Gilles Schneider, qui effectivement arrivait de la guerre des six jours.
De la guerre des six jours, oui, ça, c'est très agréable d'entendre ça. Je pense que vous qui nous écoutez, vous devez partager ces moments de bonheur. Et...
T'as toujours été aussi un animateur au milieu de l'info. Hein. C'est,
Oui, à tel point que c'était de toute façon, il y a toujours eu un écart entre l'information et l'animation, parce que tout le monde voulait tirer un peu la couverture quand on avait la gloriole des sondages et qu'Europe 1 était en tête par rapport à d'autres radios, parce que c'est vrai qu'Europe 1 s'est souvent bagarré sur le terrain avec une autre station de la rue Bayard, mais il y avait ces deux grosses stations de radio et Europe, il y avait cette espèce d'osmose, d'équipe. Moi, je trouvais ça formidable, à tel point que je me souviens m'être mis à disposition, mais j'allais réclamer même de le faire, de faire les pubs quand il y avait les grands débats et au moment des élections, avec tous les gens comme Marché, Sanguinetti, Defer, qui venaient s'expliquer au micro, simplement pour voir ce spectacle. Mmh. C'était extraordinaire.
Ouais, on va reparler de tout ça. Je voudrais te faire entendre d'abord un truc assez inattendu, parce que les parcours sont effectivement assez marrants à suivre. Un animateur inattendu qui joue les modérateurs sur La Nouvelle Cuisine dans la chronique de Go et Mio, c'est Étienne Moujotte.
Avec nous ce soir, donc, Henri Gault et Christian Millot qui publient leur nouveau guide 1975. Moi, je voudrais qu'on en revienne à La Nouvelle Cuisine, parce que vous nous parlez sans cesse de cette nouvelle cuisine, et effectivement, d'abord, on voudrait savoir exactement ce que c'est.
La Nouvelle Cuisine, c'est un style, c'est une nouvelle conception de cuisine, bien sûr, qui correspond beaucoup mieux à notre époque. Nous ne pouvons plus manger comme mangeaient nos grands-parents, c'est pas possible. C'est une cuisine plus légère, plus proche de la vérité, plus proche des produits. Parce qu'il y a une chose quand même qui est curieuse, c'est de penser que nos grands-parents, qui avaient à leur disposition des produits qu'aujourd'hui nous appelons naturels, mais finalement, ils n'y attachaient pas une grande importance, parce que c'était une époque, au contraire, où on faisait des marinades, on travestissait les produits. Or, aujourd'hui, il est extrêmement difficile de trouver de très bons produits, les produits de ferme, et justement, il n'y a jamais eu une telle demande.
Voilà, Étienne Moujotte, grand journaliste de la rédaction d'Europe 1, qui animait certaines chroniques. Aujourd'hui, il est vice-président de TF1, on l'a entendu sur la cuisine moderne. Décidément, il faut savoir tout faire dans ce métier. Mais il y a des parcours qui sont quand même étonnants. Hein.
Ben, je l'ai côtoyé donc à Europe 1, Étienne, avec Philippe Gildas. Et puis, il est devenu mon patron ensuite, quand j'ai rejoint TF1. En 1987. Mais c'est merveilleux de retrouver toutes ces personnes. Et ce que je voudrais dire surtout, c'est que pour quelqu'un qui débutait dans ce métier, tant pour un journaliste qu'un animateur, on allait les uns et les autres regarder travailler les anciens pour voir comment ils faisaient. Parce qu'il y avait quand même cette petite chose qu'il fallait comprendre un jour. Belmar, dans ce même studio où nous sommes, Marc, je voyais Belmar ici en train de faire son émission. Bien, merci mille fois. Alors, il était en train d'animer avec Harold Kay, les frères roulant, et pendant une pause de publicité, il appuyait sur le micro d'or dans la cabine où j'étais en train de le regarder travailler, et il disait à sa collaboratrice, « Mickey, tu nous réserveras 5 places chez Edgar pour 13h15. » Restaurant oui. Où tout Europe 1 s'est baladé pendant des années. Et je ne comprenais pas comment il pouvait se désolidariser de l'émission, penser à réserver une table, donner 2 ou 3 ordres pour des coups de fil, un numéro de téléphone à noter, et hop, on revenait à l'antenne. Et ça, c'était pour moi quelque chose de fascinant. Et petit à petit, on regardait ses patrons. Ouais. Oui, mais Paoli, c'était pareil. Après, il y a eu Lescure. C'était des gens qui me rappelaient étrangement un petit peu mes professeurs aux Beaux-Arts. C'est-à-dire, pousse-toi, je vais te faire voir comment on fait, mais ils nous donnaient l'exemple. Et je pense que c'est la vie qui doit être ainsi faite. Si on n'a pas une petite admiration pour des gens comme cela, eh bien, on n'arrive pas à faire le même métier derrière.
On va laisser passer le flash d'information et puis on se retrouve juste après.
On retrouve Marc Tronchot.
Retour dans le studio des enfants de la radio avec Christian Morin pour évoquer, pour entendre, réentendre certaines très grandes voix de la station. Précisément, on parlait tout à l'heure cinéma, on parlait théâtre, puisque c'est désormais ta vie, Christian. Un autre homme de cinéma et de théâtre, grande voix d'Europe 1, Jean-Claude Brialy, tu t'entendais bien avec lui?
Ah, très bien, je le vois.
Une diva, lui.
Oui. Ben, quand il a commencé à faire ses émissions ici à Europe 1, il a commencé d'ailleurs il y a plusieurs années ici, mais j'aime bien, juste une parenthèse, parce que je viens de réentendre cet indicatif d'Europe,
oui.
Et j'ai tellement fermé l'antenne quelquefois la nuit.
Ouverture et fermeture,
mais il m'est arrivé de faire 10 heures d'antenne par week-end. J'avais beaucoup. Pendant 7 ans, je suis resté sur les week-ends avec le fameux hit parade du dimanche après-midi. Mais ce qui était émouvant, c'était d'être celui qui disait aux auditeurs, nos émissions reprendront dès 5h du matin, et on avait cette musique qui partait avec ses cordes. Et
c'est
au
comme
moment
un rideau
où je prenais
tombe.
Conscience que j'étais en train de dire ça, oui. Je me disais, c'est moi qui suis en train de causer dans le poste. Et ça m'a toujours provoqué une certaine émotion. Et de réentendre cette musique, j'ai exactement la même quelques 25 ans après.
C'est comme un rideau qui tombe sur une pièce de théâtre?
Oui, parce que c'est dessiné dans, c'est une musique de film, pratiquement, quoi. C'est un film des années 40. Alors, on revient au cinéma avec Jean-Claude Brialy. Jean-Claude Brialy faisait des émissions, est un homme très drôle, mais sur l'antenne, quand il partait pour le Festival de Cannes avec Lescure, Eddie Mitchell et Jean-Claude, c'était quelque chose aussi.
Alors, j'ai retrouvé dans les archives un document, l'émission Le Pays d'où je viens, je sais pas si tu t'en souviens, émission animée par Alexandre Fronty. Jean-Claude
oui.
Brialy en est ce jour-là l'invité. Il évoque son pays, et son pays, c'est son Algérie natale. On écoute.
Le pays d'où je viens, Jean-Claude Brialy.
44 ans, le visage encore juvénile, malgré des tempes grisonnantes, dandy, distingué, célibataire invétéré, Jean-Claude Brialy est un comédien dont la renommée de légèreté n'est pas du tout fondée. C'est au contraire un bûcheur qui fait semblant de ne pas beaucoup travailler. Brialy, acteur de cinéma, son premier film en 58 avec Chabrol dans Les Cousins. S'il avait suivi les conseils de son papa, Jean-Claude serait devenu officier. Son père était en effet militaire de carrière. Dans les années 33, il se trouvait en Algérie. C'est là que Jean-Claude Brialy y est né, à Oumal, petit village près d'Alger. Il est né dans une caserne. Il a fait ensuite des études dans un lycée militaire, le Prytanée militaire de la Flèche. Jean-Claude Brialy, le pied noir.
Mon père étant militaire, ma mère a accouché. C'est un capitaine qui a accouché ma mère. Il avait dit, quand je suis né, que j'avais une tête en forme de poire, que vous serez complètement imbécile ou que je serai un génie. Alors je vous laisse à penser ce que je suis devenu. On habitait à ce moment-là une grande caserne en haut du village. Il n'y avait qu'une grande rue principale où il y avait beaucoup de petites boutiques. Il y avait une espèce de souk où on faisait bien sûr du cuivre, de l'étain. Et c'était plein à la fois de folklore et en même temps ils étaient très français. Je veux dire qu'il y avait un côté. On voulait faire un peu comme à Alger. Et les gens se tutoyaient, car là-bas, vous savez que le vouvoiement n'existe pas. Et on se mélangeait beaucoup. Il n'y avait pas de ségrégation, il n'y avait pas ce côté les Français et les Arabes. Il n'y avait pas. Vous savez, moi, c'était comme des Bretons, hein, ou des Auvergnats. Je veux dire que j'ai beaucoup de défauts et je ne suis pas raciste. Non, moi, j'ai toujours eu des rapports formidables. Il y avait un ordonnance qui nous a gardés quand on était petit, avec lequel je continue à avoir une correspondance, qui s'appelait Sédig, qui m'a élevé quand il avait 22 ans, 25 ans, qui était l'ordonnance de mon père et qui nous donnait bourré de sucre parce qu'on pleurait. Alors, pour nous calmer, on avalait 3 kilos de sucre, mon frère et moi, sur ses genoux pendant que mes parents étaient partis dîner. Je suis pas pied noir, je le suis pas. Non, être pied noir, c'est être de famille. Moi, je suis né par accident. Alors, c'est pas parce qu'on est né en Chine qu'on devient chinois. Mais par contre, de cœur, je suis tout à fait pied noir. Parce que je trouve que c'était des gens qui sont très hospitaliers, ils sont très chaleureux, ils aiment la vie, ils aiment le soleil, ils aiment l'amour, ils aiment bien bouffer, ils aiment bien boire, ils aiment bien faire l'amour. Et puis quand ils aiment pas, ils aiment pas. Hein. Ça, j'aime bien, cette forme de caractère. Ils sont menteurs. Ils sont menteurs, mais moi aussi je suis menteur. Je veux dire que j'ai beaucoup de leurs qualités et je crois de leurs défauts.
Christian, toi, c'est la radio qui va te conduire au cinéma. Jean-Claude, c'est l'inverse.
C'est l'inverse, mais en même temps, ma conduite au cinéma, c'est un bien grand mot aussi parce que je balbutie. C'est surtout aller vers le théâtre avec des rencontres. La radio est un enrichissement d'humanité, je dirais, pour le travail. Je suis resté toujours, je vais utiliser ce terme volontiers et volontairement, midinette. C'est-à-dire, j'ai toujours admiré les gens que j'avais l'occasion de recevoir. Je prends un exemple très concret. La première émission en surface, après la nuit, que l'on m'est donné à faire, c'était une émission qui s'appelait Star Story, qui était produite par Marie-France Brière. Et le premier invité a été Sacha Distel, qui est devenu par la suite un ami, bien sûr, grâce à la musique et à l'amitié qui se dégageait entre nous deux. Et là encore, j'étais en train de l'interviewer et j'écoutais ce qu'il me disait et je n'ai pas enchaîné derrière ma question. J'étais en direct. Parce que j'avais l'impression d'écouter la radio. Et c'était moi qui étais en train de la faire. Bon.
Ça fait un blanc, ça.
Oui, Marie-France Brière, dans ces cas-là, mettait des coups de poing. Mais c'est comme ça qu'on apprend le métier. Et c'est vrai que la difficulté d'aller vers la comédie, un peu plus tôt, a été celle-ci, parce que les amis, les premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis arrivé à Europe 1, c'était Maurice Birot, c'était Jean-Yann, c'était Michel Duchossois, Nicole Calfan, etc. Et je me disais, mais ces gens-là, pour faire du théâtre, sont passés par le conservatoire. Donc, toi, tu as fait les Beaux-Arts pour apprendre à dessiner. Tu ne peux pas te jeter dans la gueule de la comédie comme ça, du jour au lendemain.
T'as croisé Francis Blanche?
Oui. Francis Blanche, la dernière année où il a travaillé ici, peu de temps avant sa disparition. Et un jour, il a demandé à réenregistrer son générique de l'émission du dimanche matin, qui s'appelait c'était Les escargots meurent debout ou Les kangourous n'ont pas d'arrêt.
C'est ça.
Oui, parce qu'il y avait une pièce de théâtre qui avait l'autre nom. Et il y avait cette petite musique qui faisait ta 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 ta. Et là, il y avait une fausse note. Et j'étais tenu de faire la fausse note. Et Francis m'avait dit, Christian, vous ne loupez pas la fausse note, m'avait-il dit. Et de rencontrer là aussi Francis Blanche, que j'écoutais avec notre ami Robert Villard,
Chichino. C'était quelque chose d'émouvant. Fernand Reynaud aussi.
Tu as déjà assisté, Christian, à une grande audience, à un grand procès?
Non, jamais.
Parce que je te dis ça parce qu'il y a eu aussi une très grande, très forte voix Pocher. Associée à l'histoire de l'information sur Europe numéro 1 dans le secteur de l'actualité judiciaire. Une voix qui faisait autorité, celle d'un homme qui encore aujourd'hui reste la référence, je crois, hein, de tous les chroniqueurs judiciaires pour ses comptes rendus d'audience en 76. Le procès de Patrick Henry connaît son épilogue au micro. Frédéric Pocher.
Eh bien, comme vous le savez, Patrick Henry a sauvé sa tête à la suite d'un délibéré qui a duré une heure et demie. Et après deux très belles plaidoiries, une de Maître Bocquillon, qui est bâtonnier du barreau de Chaumont, et surtout une de Maître Badinter, avocat au barreau de Paris. Mais auparavant, le président avait posé à Patrick Henry la question rituelle, après les plaidoiries: accusé, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Vous avez la parole. Patrick Henry se lève après quelques difficultés, se décide à prendre le micro et dit ceci. Eh bien, je vais essayer de parler, Monsieur le Président. Mais si j'avais pleuré pendant l'audience, vous n'auriez pas manqué de dire que je suis un lâche. J'ai essayé pendant ces trois jours d'être moi-même. J'ai évité de montrer ce que je ressens, surtout devant tout le public qui est là. Tout se passe à l'intérieur de moi-même. J'ai passé des heures et des mois à réfléchir sur ce que j'ai fait. Je sais mieux que tout le monde ici que ce que j'ai fait est affreux. Croyez-moi. Je le regrette du fond de mon cœur. Et il se met à pleurer. Je veux dire aux parents de Philippe combien j'ai horreur de ce que j'ai fait. Ah, excusez-moi, mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et il rejette le microphone dans lequel il vient de parler. Cette déclaration qu'on attendait depuis trois jours, peut-être même depuis fort longtemps, depuis que l'on a dit à l'instruction « il n'a pas de remords », a fait une très grosse impression sur un public nombreux, très calme et pourtant très sensibilisé. Mais qu'avaient dit auparavant les avocats de la défense, Maître Bocquillon et Maître Badinter? Si vous lui refusez les circonstances atténuantes, c'est le couperet, dit Maître Bocquillon au juré. L'avocat Chaumontois, parlant du rendez-vous que s'était donné à la cabine téléphonique de Bréviande, les policiers et les gendarmes s'étonnent qu'on n'ait pas mis la main au collet du ravisseur du petit Philippe Bertrand, à un moment précisément où cet enfant était certainement encore vivant. Après Bréviande, Patrick Henry sait qu'il est fichu, dit Maître Bocquillon. Ce qui guide alors Patrick Henry, c'est la peur. Mais oui, messieurs les jurés, c'est la peur. Et c'est par peur qu'il a tué cet enfant. Alors quoi? Maintenant, qu'est-ce que vous dites? Vous dites la guillotine? Mais ce procès nous concerne tous, messieurs. Il pourrait être votre fils, il pourrait être mon fils. Alors cette pitié qu'il n'a pas eue pour le petit Philippe Bertrand, eh bien, je vous le demande, ayez-la pour lui.
Voilà, on comprend pourquoi c'est devenu la référence pour tous les chroniqueurs.
C'est extraordinaire. Et je vais faire un tout petit parallèle avec l'enseignement de Jean-Laurent Cochet pour le théâtre à partir des Fables de La Fontaine. Il nous dit raconter une histoire. On n'a pas besoin d'image quand on entend un homme comme Pocher, qui lui-même avait un penchant sérieux pour le théâtre aussi. Il raconte, c'est le choix des mots, la détermination, les individus, on y, on les voit, on les resitue par endroits. Et là aussi, je ferai un parallèle avec ce que l'on m'avait dit un jour. On m'avait dit, Claude Agnelli, qui était un des dirigeants de la maison, m'avait dit, mais ne t'emmerde pas, sois naturel. Alors, quand on vous dit ça et que vous débutez à la radio, soit naturel. Et j'ai compris un jour, en allant déjeuner chez Pierre Belmar, qui à l'époque habitait pas très loin d'Europe 1, sa fille, qui avait 4-5 ans à peu près, prenait des médicaments qui nécessitaient la prise d'un yaourt, c'était des antibiotiques. Mmh. Et elle lui dit, mais papa, pourquoi je dois prendre des antibiotiques, des yaourts avec tel médicament? Et je vois Belmar en bretelle chez lui, la chemise ouverte, en train de lui dire, bien, Maria Pia, je vais t'expliquer pourquoi et je m'aperçois que Belmar, chez lui, alors que nous déjeunions de façon très intime, en train d'expliquer pourquoi on prenait des yaourts pour accompagner des antibiotiques, était en train de parler comme à la radio. Et là, je me suis dit, si un jour, tu arrives à posséder un tout petit peu de technique de radio, apprendre à parler 30 secondes quand le réalisateur vous le demande, ça je l'ai appris par la pub aussi avec un homme ici, dans les couloirs de la régie, qui s'appelait Gérard Delouvain, pas Louvain, mais Gérard Delouvain, eh bien, quand on arrive à posséder un petit peu de technique, après, on peut être un petit peu soi-même. Mais il faut quand même quelques années.
L'information, Christian, quand on a été, comme toi, à l'antenne sur une station comme Europe 1, c'était la certitude, un jour, d'y être confronté, d'être confronté à de gros événements.
Oh là là. Alors là, j'ai pas eu de chance. C'est la vie. Mais par exemple, je me souviens, j'ai un plein hit parade un dimanche après-midi, on a appris qu'il y avait une grenade qui avait explosé au drugstore Saint-Germain. Un dimanche après-midi aussi, pour un meeting aérien, il y a un Tupolev qui s'était écrasé au Bourget. Mmh. Et j'ai le souvenir de François Ponchelet arrivant dans les couloirs. Mais encore, entre le Bourget et Europe, il était encore blême pour avoir vu
des choses insoutenables.
Des choses insoutenables que je ne veux pas décrire à l'antenne, mais qu'il me racontait dans le couloir, c'était épouvantable. La mort de Claude François. Un samedi après-midi, j'étais à l'antenne et Drucker me passe un coup de fil en me disant « Écoute, je t'annonce une chose, on attendait Claude » et il m'a annoncé la mort de Claude. Donc on a improvisé une émission, Paul Lederman est venu aussitôt à l'antenne. Petite anecdote aussi dans la façon dont les choses pouvaient se passer. Un soir, à une époque l'été, je remplaçais Gérard Klein le matin, de 9h à 11h ou de 8h30 à 11h et j'entends, j'avais passé une soirée assez arrosée la veille. Et à 7h, 6h30, je mettais le réveil pour être en forme, pour la voix surtout. Et j'entends vers 7h moins le quart, sur Europe 1, on dit d'ailleurs, Christian Morin consacrera une émission complète ce matin à Elvis Presley. Et j'apprends la mort d'Elvis Presley, j'étais pas du tout au courant. Donc je téléphone au chef d'antenne, j'arrive un petit peu plus tôt, les programmateurs, etc. Et là, on a fait une émission où je jouais le candide, c'est-à-dire l'auditeur amoureux d'Elvis Presley. Et à côté de moi, j'avais un homme spécialiste et formidable au micro, Pierre Lescure. Mmh. Et voilà, il y a eu... Mais ce que j'ai aimé...
Que des noms.
C'est le direct, surtout, le fait que la radio avait cette souplesse exceptionnelle, et elle l'est encore, d'être partout. Je crois que c'est le dernier média, à mon avis, qui peut encore faire rêver des gens. C'est-à-dire que les gens fabriquent eux-mêmes leur image. On ne l'impose pas comme pour la télévision, entre guillemets, bien sûr. Et là, tout le monde peut rêver. On pourrait dire, à l'heure actuelle, mesdames et messieurs, il se passe un événement dans ce studio d'Europe 1, avec Marc Tronchot, alors qu'on est en train d'évoquer Europe 1, un éléphant vient d'entrer dans le studio, quelques bruitages, et on pourrait faire croire, et revenir à la guerre des mondes avec Orson Welles.
Oui, pourquoi pas. À certains gags de Francis Blanche au tout début d'Europe 1.
Alors, il y a un gag aussi extraordinaire, c'est les fameuses petites éponges Pontex. Ça, c'est la publicité que Robert Villard devait faire à l'antenne en direct. Et il disait ceci. Madame, la révolution dans votre cuisine, la petite éponge Spontex est un miracle. Elle est toute petite, vous la trempez dans l'eau, vous la prenez dans la main, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. Bien sûr, on peut penser à autre chose. Et à chaque fois que Robert Villard faisait cette publicité en direct à l'antenne, Francis Blanche avait sorti son petit instrument, ouvert sa braguette, et il le trempait dans un verre d'eau, et il était en face de Robert Villard, qui, au moment où il disait cette publicité, quand il disait « elle gonfle, elle gonfle », trempez-la dans l'eau, elle gonfle, elle gonfle, Francis Blanche faisait simplement un geste, il disait « non », mais en ne disant rien. Et cette publicité a toujours eu quelques débordements, et Robert Villard n'a jamais pu dire aux auditeurs à l'époque pourquoi il éclatait de rire.
Et c'est vrai qu'on pouvait facilement déborder, on peut toujours d'ailleurs facilement déborder à la radio. Des émissions célèbres, on en a parlé d'un mot tout à l'heure, vont voir le jour à Europe, souvent imitées par la suite, comme le Club de la Presse.
Oui.
Idée de deux hommes, Gérard Carrérou, Alain Duhamel. Une émission qui se situe dans la logique, il faut dire, d'une station qui, quelques années plus tôt, avait déjà innové en organisant des débats inédits, comme celui entre Pierre Mazès-France et Michel Debré, en organisant le dialogue sur l'antenne entre ses auditeurs et les hommes politiques, ou en donnant aux instituts de sondage une place de choix dans les soirées électorales. Le premier Club de la Presse d'Europe 1, je l'ai retrouvé, il a été organisé en direct du Palais de l'Élysée sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing en 1976. Et c'était à l'occasion de la sortie du livre de VGE, Démocratie française, le Club de la Presse, un indicatif resté célèbre et des noms prestigieux du journalisme français. Et vous allez voir, il y en a beaucoup.
Monsieur le Président de la République, bonsoir. Merci de nous accueillir à l'Élysée pour ce premier rendez-vous du Club de la Presse d'Europe 1.
Autour de notre table, pour vous questionner à l'occasion de la parution de votre livre « Démocratie française », les membres de notre club, Roger Bouzinac, Denis Matin, Gérard Carrérou, d'Europe numéro 1, Jean-Marie Cavada, d'Antenne 2, Pierre Charpie, de la Lettre de la Nation, Noël Copin, de La Croix, Jean-Daniel, du Nouvel Observateur, Roger Jiquel de TF1, Claude Imbert du Point, Dominique Padeau de l'Aurore, Philippe Tesson du Quotidien de Paris, Guy Thomas de l'Expansion et Pierre Viançon-Bonté du Monde. René Andrieux de l'Humanité, Flora Lewis du New York Times et Jean d'Ormesson du Figaro se trouvent à l'étranger et ne pourront malheureusement participer aujourd'hui à notre débat. Si vous le voulez bien, Monsieur le Président, nous aborderons successivement trois sujets. Les réactions suscitées par la sortie de Démocratie française, la dimension politique avec notamment tout ce qui a trait au pluralisme, enfin les choix sociaux et économiques que vous formulez dans votre livre. Première question, selon notre règle, Gérard Carrérou d'Europe numéro 1.
Monsieur le Président, depuis le début de la semaine, le débat national que vous souhaitez a commencé à propos de Démocratie française. Le livre se présente déjà comme l'un des best-sellers de l'année. Est-ce que vous êtes totalement satisfait ?
Je crois que c'est important, et c'est ce qui ressort de la diffusion de ce livre, c'est que la publication de ce livre répondait à un besoin. Il y a deux fonctions différentes, une fonction de réflexion et de proposition sur l'avenir qui existe en tant que telle et dans laquelle sont illustrés un certain nombre d'hommes politiques ou de penseurs. Il y a d'autre part la conduite de l'action qui est assujettie à un certain nombre de données immédiates comme la situation économique, nationale ou internationale.
Voilà, on va pas aller jusqu'au bout. Giscard, au Club de la Presse en 76 pour la première édition de cette émission. Au Club de la Presse qui recevra bien sûr les plus grands de la politique française, internationale. La tradition reste la même aujourd'hui avec le Grand Rendez-vous. C'est des émissions où il t'est arrivé, Christian, d'être présent
quelquefois pour assumer la partie publicitaire puisque j'enchaînais derrière le hit parade, mais il m'arrivait fréquemment après le hit parade de prendre place ici pour assister parce que c'était épatant. Vous avez entendu, vous qui écoutez, et toi Marc, le générique des journalistes.
Ouais.
C'est Europe.
Ah, yeah, c'était presque plus qu'un club. Oui. Ça donnait parfois une belle cacophonie, d'ailleurs. Hein. Il faut bien.
Oui, mais en même temps, il y a eu ces grands débats. J'ai le souvenir d'avoir été en 73. Je me souviens un jour, Jacques Paoli me dit voilà, il faudrait que tu ailles interviewer une chanteuse turque, Ajda Pekkan. Elle était en résidence à Versailles et elle vient de faire une chanson, me dit-il, deux ou trois chansons avec Mort Schumann. Il faut que tu ailles l'interviewer, c'est Marwani qui nous demande ça, etc. Donc je vais faire l'interview un samedi après-midi et cette jeune femme était l'équivalent, toute proportion gardée, de Brigitte Bardot en Turquie. Mais vraiment, superstar et je dois dire fort jolie. Et après l'interview, nous sommes restés ensemble pendant 8 mois. J'ai donc eu l'occasion, avec Jean-Marc Véran, qui était à l'époque à la communication européenne, d'aller en Turquie. Et nous avons été reçus par des journalistes turcs et la radio turque là-bas, qui étaient étonnés de ce que nous leur racontions, et pour cause à l'époque, 73, c'est-à-dire qu'ils trouvaient, mais invraisemblable, incroyable pour eux que l'on puisse avoir une radio en France qui donnait la possibilité à des auditeurs de parler avec des politiques ou que des journalistes puissent poser n'importe quelle question sans que les politiques au préalable aient pu lire les questions qu'ils allaient entendre.
Ou qu'il puisse y avoir autant de journalistes représentant autant de façons de penser différentes.
C'est pour ça que j'ai fait ce petit crochet, mais donc voilà.
Retour avec les enfants d'Europe 1 et Christian Morin. Christian, il y a eu d'autres découvertes, je ne fais pas allusion d'ailleurs à l'émission de Jean-Pierre Elkabbach, à laquelle je consacrerai d'ailleurs, je le dis au passage, une spéciale. Je pense à d'autres concepts d'émissions, à d'autres voix accompagnées d'indicatifs qui sont dans toutes les mémoires, comme celui de la ligne ouverte de Gonzague Saint-Brice.
Bonsoir, la ligne est ouverte. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Gonzague Saint-Brice est là sur Europe 1 pour vous écouter. Allô ?
Allô ?
Bonsoir, qui est là ?
Bonsoir, Gonzague Saint-Brice, c'est Sophie, S-O-2-S-I.
Oui.
C'est un prénom arménien. Oui. C'est le nom réel de l'érable. Oui. Du platane. Je suis arménienne, j'ai 57 ans, et ce dont je tiens à vous entretenir, j'ai mon frère cadet qui a 54 ans actuellement, 55 ans, il est né sourd-muet.
Oui.
Et ces gens-là ont un vraiment, non pas sixième sens, mais ils en ont 7 et 8 en plus de nous.
Oui.
Les sens. Voyez-vous, par exemple, le cas de mon petit frère, surtout.
Oui.
Il a institué un code, puisque c'est moi son aîné de 2 ans, on m'appelait dans la famille pour me dire, ceci, viens voir, qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire. Cet enfant, de lui-même, avant d'avoir été à l'école, entre 2 et 3 et 4 ans, a institué un code tout seul. C'est-à-dire, papa, il portait des moustaches à l'époque, il disait moustache, il mettait son doigt, son pouce et index sur la lèvre supérieure. Papa, c'était moustache. Maman, c'était couture. Moi, c'était piano. C'est-à-dire, il pianote avec une seule main, il a l'air de pianoter. Ma sœur, c'était violon, voyez-vous.
C'est extraordinaire d'avoir qualifié les gens si rapidement.
C'est lui qui institue des signes à lui. Par exemple, je vois avec beaucoup d'émotion tous les films de Charlie Chaplin, même s'il fait Charlot, ou si dans Monsieur Victor, il ne fait pas Charlot, parce que je vois tout le mimétisme de mon frère. Il a pris tous les signes de Charlot.
D'une façon volontaire
D'une façon volontaire, parce que voyez-vous, on est en société, il est assis. Je lui dis quelque chose. S'il veut me dire, disons, comme Fernand Reynaud...
C'était un concept complètement nouveau, ça. Je veux dire, la ligne ouverte, faire parler tous les auditeurs, tous les auditrices, les exclus, ceux qu'on n'entend pas habituellement, ceux qui ont des gros problèmes de vie. Parfois, il y a eu des prisonniers aussi qui ont eu l'autorisation de téléphoner. Et puis, il faut parler un petit peu du personnage. Hein, la musique d'Éric Satie et Gonzague Saint-Brice, ça va plutôt bien ensemble.
Un peu,
hein,
des gymnopédies. Et puis, mais je crois que c'était une idée de René Klettmann, si j'ai bonne mémoire, qui était directeur des programmes avant qu'il ne se lance ensuite dans le cinéma et produire entre autres Cyrano.
Ouais.
Mais c'était très intéressant. On a fait une expérience aussi avec René Klettmann qui n'a pas abouti, qui était épuisante physiquement, vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait une émission pendant un mois et demi ou deux mois de minuit à 4 heures du matin ou 5 heures du matin. C'est-à-dire on était parti sur une idée avec un patronage qui était la compagnie Lachelle, pour des étudiants qui pouvaient avoir besoin de travailler la nuit, donc pour leur tenir compagnie, on avait même avec Larousse proposé une idée qui était que ces étudiants travaillant la nuit pouvaient continuer de bosser un petit peu sur les examens et avoir des questions à poser à une équipe un standard. Et ce qui était épatant, c'est que on ne voulait pas faire une émission de nuit, mais faire vivre les gens qui vivaient la nuit ou qui travaillaient la nuit. Et c'est comme ça que j'ai eu un jour, pour deux exemples, un gardien de phare, parce que ces gens-là ont un boulot, et il y en a de moins en moins, paraît-il, puisque tout est automatisé aujourd'hui. Et j'ai eu surtout un homme qui, à 3h du matin, un jour, un médecin m'a appelé. Il avait une très grosse opération qui devait durer à peu près 9 ou 10 heures ou 12 heures. Et cet homme se levait à 3h du matin pour être d'attaque, ce chirurgien. Et il nous a raconté à l'antenne la préparation d'un bloc opératoire. Puis derrière, on a eu un boulanger qui nous a raconté son travail. Et on avait tous ces gens qui vivaient la nuit pour venir nous raconter un petit peu les anecdotes.
Gonzague aura aussi animé sur l'antenne une autre émission, plus intello peut-être. Ça s'appelait Longue Distance, avec là encore un générique qui parle encore à nos oreilles aujourd'hui.
Bonsoir. Ce soir, sur La Longue Distance, nous recevions Joël Santoni et Claude Brasseur pour le film Ils sont grands, c'est petit. Nous recevons maintenant Jean Recanati pour Profil juif de Marcel Proust, paru chez Buchet-Chastel. Mais nous retrouvons auparavant Jean Chatel, qui est allé voir un dessin animé qui s'appelle Allegro non troppo.
Il y a bien des années, les studios Walt Disney sortaient un Fantasia que les beaux esprits allaient bientôt considérer comme l'un des sommets du mauvais goût de tous les temps. Souvenez-vous, il s'agissait d'illustrer, par le dessin animé, quelques-unes des pages les plus célèbres de la musique classique dirigée par Léopold Stokowski. Et moi-même, j'ai longtemps eu la naïveté de croire que le graphisme de Walt Disney, son anthropomorphisme et sa gentillesse, étaient les choses les plus détestables du monde. Péché de jeunesse, j'en suis heureusement revenu. Mais c'est ce que fait semblant de penser l'italien Bruno Bozzetto, l'un des rares grands noms du dessin animé européen, lorsqu'il décide à son tour de faire entendre les images et de faire voir la musique.
Voilà, c'était Jean Châtel dans l'émission de Gonzague Saint-Brie. On va encore faire courir la bille sur la roulette, si je vous dis Jean-Loup Lafont, à tous les auditeurs. Et s'il s'agit de toi, Christian, ça donne quoi?
Ben pour moi, Jean-Loup, c'était un publicitaire qui s'est mis à faire de la radio, et ça a été aussi un événement, parce que...
Il peint maintenant.
Il fait de la peinture,
ouais,
maintenant.
Il fait de la peinture.
Je l'ai pas vu depuis quelques années, et quand il est arrivé à l'antenne, il y avait, bien sûr, c'était la musique de Jean-Michel Jarre, Oxygène, qui était son indicatif, si j'ai pas de mémoire.
Exact, ça l'a été.
C'était les après-midi, mais c'était de la folie, quoi. C'était... Jean-Loup a été un peu la relève de Salut les copains, en quelque sorte, sur l'antenne d'Europe dans les années 70, pour le souvenir que j'en ai.
Basket avec parfois des invités qu'on n'imaginait pas nécessairement dans ce type d'émission. Léo Ferré, par exemple, qui, tu vas l'entendre, accepte de participer à un jeu radiophonique. Jean-Loup Lafont et Léo Ferré, c'est sur Europe 1 à la fin des années 70.
Ce soir donc, vous recevez avant 18h30 sur Europe, Serge Reggiani, Catherine Lara, et c'est Basket avec Léo Ferré. Et si je peux ajouter mon petit grain de sel, je suis très heureux. Je souhaite la bienvenue à Léo Ferré dans ce studio. Je tiens à préciser que c'est bien la première fois que nous nous parlons. Je vous ai vu une fois sur la scène du Palais des Congrès. Et puis ensuite, je vous ai adressé une lettre en Italie en vous demandant, en vous expliquant cette émission. J'espère que vous y serez simplement et jusqu'à 6h30. Bien.
Tout de suite, je ne sais pas si je serais capable de faire ce qu'on fait habituellement ici. Moi, je ne fais jamais ce genre de choses. Alors, je vous demande de m'excuser par avance.
On peut essayer. On essaye. La première des séquences, les enchères avec Léo Ferré. Donc je demande maintenant au public de Basket de dire à Léo Ferré ce qu'ils peuvent savoir donc de lui, de sa vie, de sa carrière.
Un de vos grands succès a été cet extra.
Oui. Alors, 20 francs. Allons-y.
Tu as un fils ?
D'accord.
Vous êtes passé dans les rendez-vous du dimanche avec Éric Tabarly ?
Oui. Ils savent tout.
Hein. Ah oui, oui.
Grande culture. Tu as eu un singe ?
Oui.
Il s'appelait Pépé ?
Oui, sans.
Vous avez des cheveux blancs ?
Ça se voit, hein.
Tu chantes Baudelaire ?
Oui,
120.
Michel Delpech a repris une de vos chansons ?
Oui,
180.
Ton fils a les yeux marrons ?
Oui,
190.
Tu as écrit un livre de poèmes ?
Oui.
Tu as fait plusieurs émissions de télévision avec Jean-Pierre Chabrol ?
Oui.
Voilà, sur Jean-Pierre Chabrol s'arrête donc les 1 minute et 30 secondes. Je vais te demander, s'il te plaît, ton prénom et ton nom de famille.
Pascal Grassard.
Ta profession ?
Étudiant.
Et tu habites à quel endroit ?
Meudon.
Eh bien, on a noté tes coordonnées et tu vas quitter donc ce studio à la fin de l'émission avec Léo Ferré, bien sûr.
Merci.
Avec ce chèque, bravo à toi.
Merci bien.
De 210 francs. Il souffle dans sa veine un vent de chlorophylle. Léo Ferré. Je te donne...
Inventer, jouer.
Christian, le hasard est bien fait. Il se trouve que tu étais dans le studio ce jour-là.
J'étais dans le studio, mais en plus, il y a une anecdote, c'est qu'il y a une jeune fille, une étudiante, qui a dit, vous avez fait les rendez-vous du dimanche avec Michel Drucker, avec Éric Tabarly. Mmh. Et j'étais dans l'émission des rendez-vous du dimanche que Léo Ferré avait faite, parce que Éric Tabarly, invité, avait souhaité entendre Léo Ferré. Et le souvenir que j'ai de cette émission, c'est que j'ai parlé pendant 20 minutes dans les couloirs des buts de Chaumont avec Léo Ferré, qui jusque-là me faisait un peu peur comme personnage, une espèce de véhémence dans la poésie, etc. Et j'ai découvert un homme d'une tendresse extraordinaire, d'une disponibilité, et c'est à la suite de ça que je suis allé le voir ensuite au Palais des Congrès, où il avait eu cette idée géniale de chanter en dirigeant un orchestre symphonique. Tous les musiciens tournaient le dos au public et lui descendaient en pente en allant vers le public et en chantant, en dirigeant l'orchestre. Donc voilà, c'est grâce à vous, les petits souvenirs reviennent. Éric Tabarly aussi, je l'ai rencontré. Ça aussi, rencontre d'Europe 1.
Et Jean-Loup Lafont et Léo Ferré, c'est un couple un petit peu improbable.
Ah, c'est paradoxal. Et ce qui est frappant aussi, c'est que Léo Ferré
homme respectable s'il en est, ça ne me gêne aucunement, mais on entend tous les jeunes auditeurs tutoyer Léo Ferré, comme Johnny.
À la même époque, sur Europe 1, il y a une ex-speakerine, au rire très reconnaissable, qui occupe les après-midi d'Europe 1. Alors vous confondez pas, parce que la première voix, c'est celle de Maryse.
14, vous écoutez Europe 1, bon week-end à tous. Je vous donne rendez-vous dimanche matin si vous êtes réveillés à 6h du matin, peut-être. Bon week-end en tout cas, je vous laisse tout de suite en compagnie de Denise Fabre.
Bonjour et bon week-end à toi.
Oui, à toi aussi.
Merci. Par Mr. Hackerbilk, voilà le titre de mon indicatif. C'est ce que vous entendez en ce moment. Alors, comme je sais que vous êtes nombreux chaque matin à le demander, je préfère commencer en vous donnant déjà toutes les références. C'est un très heureux week-end. Vers 9h20, pour votre émission Si j'étais à votre place, nous entendrons comme chaque jour maintenant une lettre lue par des comédiens de notre équipe. Certains hommes restent des grands enfants. C'est quelquefois touchant, mais ça complique bien la vie aussi. Et c'est le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi nous aurons besoin de votre aide. Mais rappelez-vous que notre émission peut aussi vous rendre service. Vous ne savez pas quelle attitude adopter, vous ne savez pas quelle décision prendre devant une situation de votre vie. Alors écrivez-nous, Denise Fabre, émission Si j'étais à votre place, Europe 1, 75 300, Paris Brune. Solange, j'ai votre lettre devant les yeux. Cette lettre mérite vraiment que nous vous disions « Si j'étais à votre place ». Solange a 23 ans. Depuis 5 ans, elle est mariée à Jean-Luc. Dès le départ, Jean-Luc a mis les choses au point et posé des conditions. « Je suis un homme de la campagne », a-t-il dit. « Et c'est là que je veux faire ma vie, avec toi, si tu m'épouses. » Toujours Jean-Luc qui parle. Solange a accepté et le jeune couple est allé s'installer dans la région du Mari, raison d'origine du Mari, à quelques kilomètres de chez ses parents. Et depuis 5 ans, c'est long, Solange n'est pas heureuse. Écoutez-la.
Et depuis 5 ans, voilà ma vie. Chaque soir après notre journée de travail, Jean-Luc va voir ses parents et il rentre tard, juste pour dîner. Entre-temps, je reste seule chez nous, je prépare le dîner et j'attends. J'ai ensuite prétexté n'importe quoi pour que nous déménagions. Nous avons déménagé, ajouté plusieurs kilomètres entre la maison de ses parents et notre nouveau domicile. Le seul résultat est qu'il rentre maintenant plus tard pour dîner à cause de la distance. Alors vraiment, je ne vois pas la solution. J'en suis même venue à songer au divorce. Mais on ne divorce pas de quelqu'un que l'on aime et qui vous aime. Je suis sûre, je veux croire qu'il y a un autre moyen, peut-être plusieurs. Et je voudrais tellement que quelqu'un téléphone pour me dire qu'elle existe.
Un mari qui ne parvient pas à se détacher de ses parents et qui est obligé de rester dans leur région à cause de la terre qu'il cultive, comment faire face à une telle situation ? Pour aider Solange à se créer un vrai foyer, appelez tout de suite le 256-89.
Comme je disais, on a entendu Denise Fabre, et au début, il y avait Maryse. Autre grande voix de la maison, associée par la suite à Jean Amadou, à Philippe Gildas, pour le meilleur et pour le
pire. Maryse qui a occupé de longues matinées avec des gens comme Bourville, avec Jacques Jouanneau, avec Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Jean Poiret, etc., etc. Maryse était une très bonne complice. Pour la bonne et simple raison, c'est que nous nous entendions très bien, à Europe, et on était vraiment très amis, très proches, et un jour René Clatman a demandé à Maryse avec qui elle aimerait travailler, elle lui a répondu que c'était avec moi, et la question m'a été posée également, et j'ai proposé Maryse, ce qui fait qu'il n'y avait pas de tirage de couverture, parce que c'est pas facile de travailler à deux. Il y a toujours une espèce d'équilibre, et puis après il y a une belle histoire d'amour avec Philippe Gildas, grâce à l'antenne aussi.
Qu'on a entendu dans une autre émission, alors qu'il faisait un Europe Stop.
Ah oui, monsieur, c'est un régal, hein, cette émission. Ne lâchez pas prise.
Dans le genre concis et efficace, le matin, il y avait un certain Yvan Levaille, encore une voix, encore un style, encore un indicatif.
Ouais,
et ce matin-là, c'est Jacques Chaban-Delmas qui est l'invité pour s'expliquer sur l'affaire Boulin.
« Jacques Chaban-Delmas, trois raisons à votre présence dans ce studio ce matin. Vous étiez le meilleur ami de Robert Boulin. Vous avez, comme lui, été mis en cause par le Canard enchaîné. Et vous avez dit hier à la tribune de l'Assemblée, il a été assassiné. Qu'est-il arrivé à Robert Boulin? Où sont les assassins? Enfin, pensez-vous, avec une partie de la presse ce matin, qu'il faut museler ou interdire, minute, et le Canard enchaîné?
Vous savez, j'ai hésité à venir ce matin ici parce que je dois faire un grand effort sur moi-même pour écarter à la fois le grand chagrin, la pitié et l'indignation qui sont les miennes. Et essayer d'être objectif, comme c'est mon devoir et le devoir de ceux qui parlent de ce drame, de cet assassinat. Robert Boulin est un homme qui comptait parmi ceux qui travaillaient le plus en France.
Que de souvenirs, un moment dramatique, un homme que personne n'a oublié, Jacques Chaban-Delmas, et puis Yvan Levaille qui va se livrer à cet exercice-là qui est le plus difficile, parce que dans l'interview, avoir une économie de son temps, c'est du talent. Hein.
Expliquez-vous sur Europe 1, évoque pour moi deux souvenirs. D'abord de ce que tu viens de dire, Marc, dans la qualité de ce type d'émission et de la difficulté de le faire. Mais un jour, je me rappelle, il y a eu un tout petit changement d'horaire, mais à 5 ou 7 minutes à peu près. Ça a été un tollé général, d'où la difficulté de faire des programmes de radio. Car des gens étaient habitués à écouter, disons, Yvan Levaille à 8h15 ou 8h20 le matin, et en se rasant, ils savaient qu'il était 8h20. Et un jour, c'est passé 7 ou 8 minutes après. Et beaucoup de gens sont arrivés en retard à leur boulot, simplement persuadés qu'il n'y avait pas ce décalage horaire. Et c'est quelque chose de très difficile quand on a donné une habitude à un public. C'est comme une maquette de journal pour la presse écrite. Et quant à Jacques Chaban-Delmas, alors Yvan Levaille est un homme que j'apprécie beaucoup, et puis Jacques Chaban-Delmas a été bien sûr mon maire, et c'est un homme que j'ai longtemps vu au Pays Basque, et puis jusqu'à la fin de sa vie. Et il avait accepté cette idée que je puisse m'amuser à l'imiter un tout petit peu, et un jour j'ai été confronté à la chose par lui-même dans une émission de télé, ce qui m'avait profondément gêné. Et j'aimais beaucoup Jacques Chaban-Delmas, pour une bonne et simple raison que j'essaie d'avoir un petit peu comme ligne de conduite, c'est que lui respectait davantage les hommes que leurs idées. Et j'aime bien cette chose-là.
Les enfants d'Europe 1, Marc Tronchot.
Il y a des rendez-vous politiques, il n'y en avait pas seulement le matin, il y en a eu d'autres plus tard le soir, avec Michel Lancelot par exemple, dans l'émission Campus. Campus.
Au micro, Michel Lancelot. With your flashing eyes.
C'est le Tiger comme tous les soirs de Brian Auger. On commence tout de suite avec une petite information. Il y a un Français qui devient très très célèbre aux États-Unis, à New York. Vous savez que déjà Bécoul l'était grâce à son Et Maintenant, qui était devenu un What Now My Love, qui était chanté à peu près par tous les crooners américains. Une autre nouvelle, il y a une comédie musicale qui triomphe au Village Gate de New York, et elle s'intitule Jack Brad is Alive and Well and Live in Paris, qui signifie à peu près Jack Brad est bien en vie et il va très bien, il vit à Paris. Elle a été composée, cette comédie musicale américaine, avec tous les grands succès de Brel, et elle a été adaptée par Mort Schumann pour les besoins de la cause. Ce soir, je vais vous parler plus spécialement d'un sujet que j'aime beaucoup, qui me tient très à cœur. Je vais vous parler un peu de la révolution, enfin de toute une révolution qui s'est passée dans les universités américaines de 1959 à 1967. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je vous mets tout de suite un disque qui va vous mettre un peu dans le vent, dans le cou de ces universités. C'est un musicien indien que vous connaissez très bien. Les indianistes trouvent qu'il est un peu commercial, mais en tout cas, il est très important parce qu'il a joué un très très grand rôle dans la révolution psychédélique de la musique pop. C'est monsieur Ravi Shankar, on l'écoute et il présente Alaraka dans un solo de tabla.
Alaraka.
De l'Alaraka, son joueur de tabla, qui s'avance.
Alaraka will play for you six.
Et vous allez voir, Ravi Shankar va donner le tempo et au même moment, Alaraka va commencer à jouer.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1.
1968, campus Lancelot et Ravi Shankar, comme quoi tout peut arriver sur Europe.
Ah oui, c'était psychédélique là.
Et t'es où à ce moment-là ?
Moi j'étais sur le bassin d'Arcachon, je jouais l'été, il y a eu la guerre de 68 bien sûr, que j'avais vécu étant aux Beaux-Arts à ce moment-là. En plus, j'avais la lourde tâche d'être massier de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, c'est-à-dire le plus ancien et responsable de tous les élèves et du contact entre les élèves et les patrons et les profs.
Et on écoutait Campus ?
Et on écoutait Campus, bien sûr, et c'était... Alors, il y a toute la période psychédélique avec Ravi Shankar, bien sûr, les premiers joints pour certains. Moi, j'ai fumé une seule fois dans ma vie, et je vais vous raconter une chose étonnante. Je venais de faire un concert en alternance avec un groupe dans lequel il y avait, je ne le savais pas encore, le futur batteur de Paul McCartney avec les Wings. Et on est parti sur le Cap Ferret ensuite, j'avais bu un scotch, je devais avoir à ce moment-là 22 ans, 23 ans, j'avais bu un petit peu de scotch avec du coca, qui était la boisson des musiciens, et on m'a proposé ce qu'on appelait un pétard. Alors je le déconseille à ceux qui nous écoutent, et j'ai pas voulu avoir l'air ridicule, et en fumant cette chose-là, je me souviens que la route entre le Cap Ferret et Bordeaux, je la trouvais un peu ronde, en revenant avec ma 4L, ma première voiture, et j'écoutais la radio, j'écoutais Europe 1, et ça me semblait quelque chose d'inaccessible. Alors que je ne songeais pas du tout à aller vers la radio à ce moment-là. Mais c'était une période un petit peu de folie d'après 68.
Ah mais je pense qu'il y a eu quelques volutes de fumée, hein, dans le studio de Campus.
Oh, j'imagine, oui, oui. Ça ressortait par les transistors. Peut-être, peut-être.
Par la suite, il y a eu François Jouffa dans Radio Libre.
Ah, François, mais oui aussi, tout à fait.
Et il y a certaines émissions qui donnent encore aujourd'hui matière à réflexion. Ce soir-là, c'était Radio Libre aux résistants afghans.
Bonsoir, François Jouffa au micro, Anne Pérez, et avec nous un certain nombre d'invités, vous le savez sans doute, cette émission jusqu'à 22h30 sera consacrée à l'Afghanistan, car avec nous, des résistants afghans. Ce soir, c'est Radio Libre aux rebelles afghans. Anne, nous allons présenter nos invités. Il y a avec nous Jean-José Puig, président des Amis de l'Afghanistan, Olivier Roy, chercheur en sciences politiques, qui connaît bien l'Afghanistan et qui a fait un certain nombre d'allers-retours. Il y a avec nous Tandar, bonsoir Tandar, qui est traducteur. Bernard-Henri Lévy, écrivain philosophe. Marek Alter, écrivain peintre. Je pense qu'on peut vous présenter comme ça, Marek Alter.
Oui, tout à fait, oui.
Et ils se sont tous les deux occupés, d'ailleurs comme la plupart des gens qui sont ici, de Radio Kaboul Libre. Et d'ailleurs, il y a Isra, qui dirige Radio Kaboul Libre. Bonjour.
Bonsoir.
Good evening. You only speak English and of course Parsi. Il ne parle évidemment que sa langue. Anne, ce serait trop vous demander de décrire ces personnages fantastiques qui sont dans ce studio, ces grands gaillards nobles, barbus, avec leur turban. J'ai peut-être déjà tout dit.
Il y en a deux barbus, en tout cas. Ils sont très beaux. Ils ont la peau un peu sombre. Il y en a un qui est coiffé d'un turban formidable, noir et blanc, à rayures. Et puis, ils sont vêtus comme vous et comme nous, c'est-à-dire avec des pullovers, des vestes et des chemises, enfin...
Pas véritablement, quand même, hein.
Oui, si, ils ont des pullovers, des écharpes. Moi, je vois rien de très particulier, à part le turban superbe qui est juste en face de nous.
Bernard-Henri Lévy, vous les connaissez bien, ça ne vous étonne pas. Moi, je suis complètement surpris de les voir dans un studio de radio, dans un pays occidental, et à Paris, précisément.
Oui, enfin, ce qui est surprenant, surtout, c'est que, si j'ai bien compris, nous avons ici des représentants de chacun des partis de la résistance afghane. Et ça, je crois que c'est très important, car on dit beaucoup que la résistance afghane est divisée. On ne cesse de dire que c'est une résistance tribale, divisée en tribus, qui par conséquent ne pourra jamais vaincre les soviétiques. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ces studios d'Europe numéro 1, par vos soins d'une certaine manière, nous avons là un embryon de ce que pourrait être une solidarité entre les différents groupes de la résistance.
Vous pouvez leur poser la question quand même, là, à ceux qui sont là.
Ça fait deux ans que les soviétiques ont envahi l'Afghanistan.
اصلا این طور است که در افغانستان زمان که جنگ شروع شد
voilà, c'est intéressant à écouter parce que d'une part l'Afghanistan on en parlait déjà à ce moment-là et puis c'est vrai que la radio permet aussi d'informer sur des choses très lointaines, sur des problèmes très lointains. Mmh. Et c'est vrai que c'est un média très, très démocratique d'une certaine manière.
Bien sûr. Et je pense, là, par exemple, par rapport au problème de l'Afghanistan, à l'époque, avec la Russie en affrontement, on nous fait voir déjà aussi une certaine coulisse de ce que l'on entend dans les bulletins d'information habituels. On ne savait pas ces choses-là, et la radio, là encore, avec ses voix, avec la façon dont Anne Pérez décrivait les individus, et je ne savais pas, Marc, merci de me l'avoir signalé quand on les entendait, que c'était les gens de l'équipe de Massoud, quoi, qui a été assassiné par la suite.
Oui, tout à fait.
De cette colonne-là.
Non, on n'avait pas invité les talibans, non.
Non.
Il devait être déjà reconnaissable. Comment ne pas parler dans les grandes voix, puisqu'on les évoque ce matin, celle de Coluche. Un studio porte son nom en Europe, oui. Comme d'autres portent celui de Jean-Luc Lagardère ou de Louis Merlin, génial fondateur de la station. Coluche, c'est quels souvenirs qui viennent en premier, Christian, quand on évoque
le premier nom. Souvenir que j'ai, c'est Coluche. Mon bureau était au-dessus de l'entrée du garage d'Europe 1. Pour ceux qui passeront rue François 1er, vous pourrez jeter un petit coup d'œil. Là, la fenêtre est en demi-lune. Et Coluche avait son bureau à côté du mien, et je travaillais avec Chantal Dumas et Hélène Hautement, qui était réalisatrice ici, la sœur du journaliste de France 3, ancien d'Europa aussi. Et Coluche, le matin, quand il arrivait, passait devant le bureau, et avec son café à la main, il disait « Bonjour les filles !» Et il revenait deux pas en arrière, il fait « Oh, excuse-moi Christian, je t'avais pas vu !» Et très souvent, nous avons pris le café avec Michel, comme on l'appelait dans la coulisse, Coluche. Et j'ai découvert le père de famille, l'homme, tel qu'il pouvait l'être, avec toutes ses facettes différentes, publiques, plus intimes, désagréables parfois, foutu caractère, et homme de talent. Et moi, il m'avait dit « Je t'aime bien parce que t'as fait les beaux-arts, parce que tu joues de la clarinette ». Donc, on avait un rapport tout à fait amical et délicieux. Puis, grand bonhomme quand même.
En 74, il n'est pas encore une célébrité, mais sur l'antenne, il se présente dans tous les sens du terme.
Je mesure, mettons, 1m72, par là. Autour de ça, je pèse 86 kilos, pratiquement, quoi. Je veux dire, les bonnes balances. Et puis, je suis né dans la banlieue sud de Paris, donc. Et puis voilà, quoi. Alors, j'ai attendu là un bon moment que ça se passe. Et puis, j'ai fini par faire l'artiste.
Vos lunettes, c'est pour faire intellectuel ?
Ah, mes lunettes, c'est pour regarder. Parce que mes yeux sont derrière, vous voyez.
Vous montez avec vos bretelles de toutes les couleurs sur scène, par exemple ?
Des fois, oui. Non, mais j'ai des salopettes, je mets n'importe laquelle et ça marche toujours. C'est bien parce qu'il y a plein de poches. Alors, j'ai des accessoires, je mets dans mes poches. J'ai chemise, des machins, je suis à l'aise dedans, j'ai pas chaud, c'est bien.
Et vous parlez des choses qui sont, par exemple, proches de l'actualité, ou bien vous racontez des histoires qu'on vous a racontées dans la journée ?
Non, je raconte des histoires que j'ai inventées. C'est beaucoup dire, que j'ai découvert, transformé, aménagé et joué. Mais ça parle de plusieurs choses, c'est pas un sujet précis, quoi. Bon, une fois je parle des racistes, une fois je parle des pauvres mecs qui ont des difficultés d'allocution, mais je sais pas en fait, il n'y a pas de message. Je le fais pour faire rire, ça fait rire, tant mieux. Je crois que il faut savoir exactement où on en est, quoi.
Puis pas... Vous en êtes où précisément ?
Ah ben moi je débute complètement, hein, j'arrive. J'ai jamais rien fait finalement. Ça fait 10 ans que je fais ce métier et j'ai rien fait.
Si vous avez porté des salopettes, c'est tout.
Oui, en gros, oui.
Il a fait plus après, hein.
Oui, et puis déjà, il existait. C'est très marrant parce que sur les photos de Coluche à l'époque, il était beaucoup plus mince, il y avait une ressemblance étrange avec Richard Gottener. C'était assez surprenant. Et puis l'aventure est arrêtée, hélas, beaucoup trop tôt, quoi. Mais personnage.
Je voudrais terminer par quelqu'un dont le nom est associé depuis le début à Europe 1. Son nom et sa voix sont associés à deux émissions de légende. Pour ceux qui aiment le jazz et Salut les copains, j'ai nommé Daniel Filipacchi. Un mot de ce personnage référence dans l'histoire d'Europe 1, Christian,
parce que... J'ai moins connu Daniel Filipacchi. Forcément, Daniel Filipacchi, c'est la référence à Salut les copains quand j'étais beaucoup plus jeune. Avec
au jazz
Europe,
aussi.
Et au jazz avec Franck Thénault. Alors, je connaissais un peu mieux Franck Thénault. On partageait ce goût du jazz et puis l'amour des huîtres, du vin de Bordeaux et puis il adorait l'Espagne aussi. Franck Filipacchi, pour moi, c'était encore une espèce de monument insaisissable, une voix. Je l'ai croisé il y a quelques jours dans les rues de Paris à Saint-Germain en train de déambuler et je crois qu'il revenait du festival de Montreux où il avait été déguster la musique d'un certain Sergio Mendes.
Et en 84, c'est pour la troisième fois seulement qu'il revient dans les studios d'Europe 1 depuis son départ de l'antenne à la fin des années 60. Il s'exprime dans l'émission Découverte de Jean-Pierre Elkabbach et déjà quelques éléments d'archives vont se glisser dans leur discussion.
Découverte, bonsoir, Jean-Pierre Elkabbach, Daniel Filipacchi, je suis heureux de vous recevoir dans cette émission. D'ailleurs, vous connaissiez la maison avant moi.
Oui, c'est vrai, oui. J'ai connu les débuts de la maison.
Vous avez commencé à travailler à Europe 1 au tout début d'Europe, c'est-à-dire dans les années 1955. Vous y êtes resté combien, 13, 14 ans?
À peu près, oui. Jusqu'en 68, 69.
Et depuis 68, 69, c'est-à-dire 15, 16 ans, je crois que vous n'êtes venu que deux fois dans cette maison, pour une émission avec Jean-Louis Lafont et avec Yvan Levaille. Deux fois en 16 ans, c'est pas beaucoup?
Non, c'est pas beaucoup. Non, mais on m'a pas demandé de venir beaucoup plus souvent. Hein.
Ouais, mais parce qu'on sait que vous êtes difficile. Vous êtes quelqu'un de secret. Vous parlez peu. C'est une forme de timidité ou quoi?
Je sais pas. Oui, peut-être. Discrétion, disons. Ouais.
J'ai essayé de réécouter quelques émissions, il n'y en a plus tellement dans les archives, paraît qu'elles ont disparu tellement elles étaient bonnes. C'était pour ceux qui aiment le jazz, oui. Et Salut les copains. Il paraît que quand vous lanciez les disques, quand vous les présentiez, vous parliez peu.
C'est vrai, oui. Et même, je disparaissais pendant une demi-heure. Je revenais, on enchaînait 5-6 disques, je revenais. Et puis, même assez souvent, d'ailleurs, je ne venais pas moi-même à l'émission. Personne ne s'en apercevait.
Ah oui. Non, et pourtant, elle était très, très écoutée. Elle a marqué beaucoup d'entre nous.
Ben oui, mais parce que c'est justement, c'était différent à l'époque. À l'époque, la radio était un peu pénible.
Ouais.
Je veux dire, Radio Luxembourg, Paris Inter, il y avait beaucoup de blabla. Ça, c'était la première émission où vraiment, il y avait très, très peu de paroles.
Oui, on se souvient de cet indicatif de « Salut les copains, SSC ».
Ouais, c'est déjà la fin, Christian.
C'est trop court, c'est beaucoup trop court.
Bon.
Mais petite ouverture de parenthèse, Elkabbach, homme de télévision, il avait fait aussi un petit peu de radio, mais homme de télévision, et qui est revenu, je me souviens, quand il est venu nous rejoindre à Europe 1 et devenir le patron qu'il est aujourd'hui. Je pense, enfin vous lui poserez la question, mais je pense qu'il doit profondément aimer la radio. Et est-ce qu'il préférerait pas la radio à la télévision?
Intuitivement, je pense que oui. Bon, on verra, je lui demanderai.
Posez-lui la question de ma part.
Des voix, de toute façon, on en a oublié plein, il faut en garder pour la suite. Et puis, vous tous, vous entendrez celles qui manquent dans les autres émissions. Merci Christian, bonne continuation.
C'est moi qui vous remercie parce que c'est assez, assez émouvant. Et si cette émotion a été partagée avec vous qui nous écoutez, tant mieux. Et merci, là encore, aux auditeurs de nous faire, les uns et les autres, pour la radio, de nous faire exister.
À très vite autour des enfants d'Europe 1 qui, je vous le rappelle, se réunissent chaque lundi et chaque vendredi de 10h30 à midi. Ciao.
À lundi, Marc Tronchot.